Je vais commencer avec ce petit animal que vous connaissez tous très bien maintenant, puisqu'il est accusé d'avoir grippé l'ensemble de la mécanique mondiale. Mais le pangolin, en réalité, c'est un petit animal complètement inoffensif, qui est aujourd'hui l'animal le plus menacé de disparition, bien avant l'éléphant, le tigre ou le rhinocéros, et qui est menacé de disparition énormément braconnée. C'est des millions de spécimens qui sont livrés à une traite entre l'Afrique et l'Asie, parce que donc les Asiatiques sont friands du pangolin en cuisine notamment. Bon, il est chassé pour son écaille aussi, mais surtout en grande partie pour une cuisine de luxe ou jugée thérapeutique. Lévi-Strauss disait qu'il y a des animaux bons à manger et des animaux bons à penser. Et le pangolin est de cette deuxième catégorie, visiblement. Pour beaucoup de populations africaines, il est au centre d'une pensée très complexe, notamment les populations du centre de l'Afrique, où donc toute l'organisation du monde tourne autour de ce petit animal. Et cela parce que le pangolin est ce qu'on peut appeler une sorte d'animal intermédiaire, le seul mammifère avec des écailles, la langue plus longue que le corps, qui vit à la fois dans l'eau, mais sur terre, grimpe aussi aux arbres, qui se tient debout sur ses deux pattes comme un homme, qui a aussi une préhension quasiment humaine. Donc c'est vraiment un monstre taxinomique. Pour tout cela, les Africains en ont fait un peu le démiurge. L'être qui, dans le système de pensée, a déclenché la création du monde. Et aussi l'être qui a apporté tout le bagage civilisationnel à beaucoup de peuples, notamment encore une fois, les populations Congo. Et donc, à partir donc du pangolin, il y a tout un ensemble de règles qui sont extraites, qui irriguent tout le signifié chez ces populations-là. Il y a des règles, par exemple, morales qui viennent du pangolin. Le pangolin est un animal qui ne supporte pas la captivité, il se laisse mourir en captivité. On en tire un certain nombre de règles d'irréductibilité. C'est un animal dont la mathématique est uniquement interne en quelque sorte. Il est rétif à toute forme d'inscription dans une logique de production marchande, de culture en quelque sorte. On tire aussi des règles du sens de la conscience. On considère que le pangolin est le seul animal qui éprouve la honte, parce que quand vous tombez sur un pangolin, il se cache tout de suite, il met la tête, il s'enroule sur lui-même. Et de là, on extrait un certain nombre de règles. C'est aussi un animal qui nous sensibilise à la mesure, parce que c'est un mammifère unipare, il n'a qu'un seul. Petit par portée, et donc comme les hommes, il fait un enfant généralement. Et donc il se régule lui-même en quelque sorte, comme il régule aussi beaucoup de choses dans la nature. C'est notamment le principal régulateur de la population des insectes dans nos forêts. Et donc sa disparition créera durablement un déséquilibre dans les écosystèmes africains. Alors il y a encore beaucoup de choses. Le pangolin inspire l'architecture chez ces populations-là. La façon dont le bâtiment est pensé est beaucoup sur l'observation de la façon dont les écailles sont engencées chez les pangolins. Le pangolin est aussi l'alter ego du roi, du chef. Le village étant en miroir à la forêt, qui est le monde des animaux. Le chef est un représentant des animaux chez les hommes. C'est pour ça que souvent il est vêtu en peau de léopard, comme le pangolin est un représentant de l'homme chez les animaux. Et donc les deux sont des médiateurs. Beaucoup de rituels font rencontrer le chef et le pangolin, etc. Et quand un pangolin meurt, en réalité, il est enterré comme un chef. Vous voyez que la place que le pangolin occupe dans le système de pensée de ces populations-là contraste beaucoup avec le sort qui lui est aujourd'hui réservé, puisque c'est vraiment l'animal le plus traqué, le plus tué, pour ainsi dire, le plus menacé dans cet écosystème-là. Et c'est assez intéressant de se dire que la crise que nous vivons aujourd'hui, et qui nous fait tous nous masquer, vient peut-être du fait que ce qu'une population a posé à son fondement comme étant le nœud même du concept et ce par quoi ils brodent tout leur système de pensée a basculé et est devenu un vil objet de commerce. Et de là, tout un cycle de dérangement qui nous amène à cette crise mondiale. Alors là, vous devez commencer à vous demander quel est le rapport avec le numérique. J'y viens. Donc, à partir d'un centre de névrose unique, il y a une perturbation qui s'est rapidement répandue sur la Terre entière. Et là, je parle du capitalisme, bien sûr, puisque le capitalisme, comme le virus biologique, entretiennent la même, ont une sorte d'identité de méthode par cette sorte de perturbation qu'il crée dans des systèmes traditionnels, organiques, cohérents. Il y a donc deux niveaux de virus très similaires. Et c'est aussi la métropolisation capitaliste qui provoque les bouleversements dans la nature qui font émerger les virus comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore tout du viral, puisqu'il y a une nouvelle couche plus subtile, plus vicieuse. Le virus se manifeste donc, c'est ce qui nous intéresse dans ces rencontres, dans un aspect des technosciences. Et ça, on a pu le voir avec la Chine et comment la Smart City, par exemple, qui était un concept encore très astral, s'est concrétisé tout d'un coup là-bas avec des drones qui se sont pointés aux fenêtres pour prendre les températures des gens. On voit que il y a une nouvelle couche de virus qui est technologique, mais qui, et c'est un peu moi ma thèse, se coule dans le même lit que les perturbations dans la nature, les perturbations dans le social. Et donc ces trois niveaux de perturbations qui sont plus ou moins enchâssés. Donc la perturbation au niveau de la technique que créent les technosciences est le fruit de deux processus. Il y a un premier processus qui est la sorte de prise de conscience par le libéralisme et qui l'a de vouloir transformer les entreprises, de vouloir faire fonctionner les États comme des entreprises, arrive à la conscience qu'il pourrait plus vite et presque mieux arriver à ses objectifs s'il faisait des entreprises des États. Avec aujourd'hui des grandes entreprises qui bientôt vont battre monnaie, avoir leur propre système de justice, etc., etc. Et un deuxième processus par lequel la technologie qui jusque-là était de socle social glisse de ce socle et prétend désormais non pas aider le social à être meilleur, mais se substituer au social. C'est toute la génération des technologies du digital qui sont très, très, très imbibées de cette arrogance de vouloir faire du social à la place du social. Et donc le danger est que ce soit seulement un premier mouvement, cette forme de substitution du social par le technologique, et qu'en réalité, ce que cherche à faire le technologique soit en réalité de s'extraire complètement de la réalité et de créer sa propre réalité dans laquelle nous ne serions que des invités. Et souvenez-vous, ça s'est déjà produit, encore une fois avec le capitalisme, puisque l'économie qui était de l'ordre des moyens, qui devait servir au social, s'est émancipée du social et est devenue une sorte de champ autonome qui, par la logique magique de la financiarisation, se nourrit lui-même et sa propre finalité, etc., etc. Donc cette perturbation pourrait se produire au niveau du technologique aussi, et nous ne serions que des passagers dans ce bateau de la réalité technologique, et la technologie pourrait complètement s'émanciper du réel. Et c'est le vrai danger à régler. Et c'est un danger qu'on pourrait régler de mon point de vue en observant donc ce que j'appelle les computationnalités primitives. Et c'est le point de vue que je vais essayer un peu de défendre. Dans tous les cas, ces trois niveaux de virus dont je dis qu'ils sont engeancés, le fait qu'ils soient engeancés est plutôt une bonne nouvelle parce que cela suppose qu'il y a quelque chose de commun quand même au biosphérique, aux structures sociales et aux technologies que nous avons aujourd'hui. Et s'ils ont quelque chose de commun et que ils sont perturbés un peu par le même mouvement, on peut imaginer aussi qu'il y a une possibilité de les faire collaborer et que ce soit trois couches qui idéalement est très fortement soit intriquée et fonctionne ensemble. Et il suffit d'observer comment donc sur les deux premières couches, les sociétés traditionnelles ont extirpé des lois d'organisation sociale du naturel pour en définir peut-être des règles qui permettraient d'avoir des formes de technologie qui soient complètes, qui tissent avec la structure sociale. Donc au niveau du technologique, et ça nous amène à la question de la ville, à travers la smart city, la technologie, ça vise très crucialement de son destin comme étant urbain. Et ce que je dis, c'est que par là, la technologie et son danger de perturbation ont un rendez-vous avec l'Afrique, puisque si l'urbain est l'avenir de l'homme, la question de l'urbanisme est africaine désormais, puisque vous le savez, la population sur ce continent va doubler dans les moins de 30 ans qui viennent. Un humain sur quatre sera africain. Et un urbain sur six sera dans une ville africaine. Et les cinq plus grandes villes du monde seront sur ce continent. Donc ce que les Africains décideront de faire de la ville ne les regardera pas qu'eux, mais regardera la Terre entière, puisqu'ils pourraient accélérer formidablement ce que nous appelons l'anthropocène s'ils décident de faire des villes sur le modèle occidental et surtout avec cette inéluctabilité que se propose d'être la smart city classique. En réponse à ça, voici ce que nos décideurs africains proposent. Donc, ils sont, eux, pour la smart city. Et eux vont plus loin que ce que Google, qui, très prudent, vous montre du ludique. Il la dessine, cette ville. Ce qu'ils évitent de dire très, très, très prudemment, c'est quelles technologies vont irriguer ces villes-là, un peu de papier photo. Qui sont un exotisme un peu inversé de ville futurisme occidental que même les Occidentaux n'ont pas encore atteint. Ce que je dis, moi, c'est que si ces smart cities sont, comme ça a l'air d'être le projet travaillé par de la technologie de Google et de Facebook, on ne peut pas dire que ce soit des smart cities africaines, ce serait des smart cities américaines en Afrique. Et de fait, c'est les GAFA qui poussent et financent beaucoup ce genre de projet dont le coût moyen est à peu près de 12 milliards de dollars, ce qui veut dire aussi de l'endettement sur plusieurs générations encore pour nos pays. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur la Smart City de façon très précise. Je vais ajouter juste deux ou trois autres critiques. Une critique qui découle de ce que je viens de dire, qui est que forcément, il y a un problème presque philosophique avec la Smart City, puisque si on considère que c'est un modèle de ville produite par les nouvelles technologies, les technologies étant censées changer en permanence, on n'atteint jamais la smart city. Et donc c'est un horizon toujours fuyant et une sorte de grosse hypocrisie, de cynisme, qui est le plus gros programme d'obsolescence programmé, vendu à la Terre entière. C'est un piège pour acheter de la technologie indéfiniment, puisque vous n'atteignez jamais la smart city. L'autre piège pour les pays africains, c'est que ça devienne une sorte de grosse infrastructure pour pomper de la donnée avec tous les problèmes de souveraineté que vous pouvez imaginer. Mais il y a une critique encore plus fine à faire de la smart city, c'est qu'elle sert un processus qui est celui fondamental au capitalisme de produire des individus, puisque isolés, vous consommez. Si on est en groupe et que j'ai le dos qui me gratte, au pire, je demande à mon camarade de me gratter le dos. Même les singes font ça. Mais si je suis seul, je vais peut-être consommer des devices qui m'aident à me gratter le dos. Donc, plus vous êtes seul, plus vous êtes inscrit dans une logique de consommation effrénée. Et la ville, dès ses débuts, a servi ce dessein-là de nous faire basculer d'une logique d'habitation vers une logique d'habitacle, pour être de plus en plus isolé et donc consommé. Et la ville, ce n'est que cette grappe d'habitacles qui sert un projet de gens, de société atomisée en réalité, où la fonction est de consommer en permanence. Mais inscrit dans la smart city, on atteint l'individu un peu surpuissant, parce que il n'est plus isolé seulement du groupe, mais il est isolé aussi dans sa parole, puisque Ce sont, comment dire, les données qui parlent pour lui quand il va faire un prêt à la banque. Ce qu'il aura laissé comme trace demain pourra dire mieux que lui-même et certainement avec plus de fiabilité s'il est solvable ou pas. Des algorithmes qui pensent pour lui, il ne décide plus de rien, il s'en remet complètement aux technologies qui se substituent au sens de la responsabilité à ce niveau-là. Et il n'a même plus besoin de ressentir avec son interface physique, puisque la ville et la maison étant truffées de capteurs, la maison elle-même se ferme quand il fait froid. Donc l'individu augmenté qu'on imagine comme l'horizon des technologies très poussées, en réalité, c'est un homme très réduit, isolé du groupe. Mais réduit en lui-même, qui une sorte de portion congrue, un être dernier qui n'est même plus un substrat, puisque tout son concept lui est enlevé. Et là-dessus, c'est très intéressant de voir aussi que grâce à la Smart City, il y a une sorte de reconfiguration du capitalisme qui est en train, semble-t-il, de mon point de vue, de basculer d'un capitalisme productif vers un capitalisme de la quarantaine perpétuelle, où chacun est chez lui enfermé. Et ça, les projets de Smart City le trahissent très bien, puisqu'on ne voit jamais de gens dans la rue. On n'a plus besoin d'être dehors, on n'a plus besoin de sortir travailler. Vous travaillez depuis chez vous, du moment que vous êtes connecté. Et donc, vous avez par le même moyen la possibilité d'être exploité et surveillé. On va vers une sorte de division spatiale où l'espace public sera dégagé pour la machine et l'homme sera de plus en plus repoussé vers l'intérieur, surtout gardé à l'intérieur parce que dès qu'il sortira et se répandra dans la vie, il ne sera plus connecté et donc on ne pourra plus. Il ne sera plus extractable. Là-dessus, parce que je veux quand même en arriver à la question de la cosmogonie, je pense qu'il y a deux approches des installations humaines. Il y a l'approche que vous connaissez, qui donne les villes telles que nous les connaissons aujourd'hui, qui est depuis Descartes, cette idée que l'homme est menacé par la nature, donc qu'il doit soumettre, etc. Et par une série de rationalisations, de sophistications, l'homme s'éloigne de plus en plus de la nature et se crée un environnement maîtrisé où la nature, où les contraintes de la nature sont de plus en plus mitigées. C'est le processus civilisationnel où d'abord on sort de la nature et puis le groupe étant modélisé sur le modèle de la gang nature, dans le raffinement poussé au bout, on doit aussi s'extraire du groupe et vivre son individualité. Puis il y a une autre approche des installations qui est celle des sociétés de tradition, où là, on considère l'installation comme quelque chose qui doit tisser avec son environnement. Les anthropologues appellent cette approche-là, le système du monde. Et donc l'installation ne doit pas perturber la situation qui préexistait, il doit idéalement même la catalyser, etc. Et c'est comme ça que les populations traditionnelles généralement font cité, territoire, etc. Et dans le système du monde, il y a une cohérence. On l'a déjà vu avec le pangolin en tant que démiurge et tout ce qu'on en a tiré comme élément de civilisation. Dans le système du monde, il y a aussi de la littérature, de la musique, de l'architecture, mais qui déclinent de la même logique. Et là, vous avez l'acte du démiurge chez les Égyptiens anciens, avec le dieu Amon au milieu, qui donc crée le monde en soulevant Nout, le ciel, au-dessus de Guêpes, la terre, aidé par une paire de Netérou qui représentent l'eau et l'air, qui sont Chou et Neftou. Et cette image est très intéressante parce que c'est à la fois le récit fondateur, le mythe fondateur qui est raconté, donc la création du monde, qui est présentée comme un modèle archétypal idéal de toute chose. Et donc vous allez voir que l'architecture va reprendre ce modèle, la musique, etc., etc. Mais c'est aussi une cosmologie parce que tous les éléments du cosmos sont représentés. J'ai simplifié, mais en fait, c'est la totalité dans son unité. Comme le pangolin, parce qu'il a différentes faces de toute la complexité, résume le monde. Il y a le monde qui est résumé ici. Mais de là, on extrait aussi des lois morales, qui sont ces lois qu'on connaît dans les sociétés africaines, dont la plus La plus connue est peut-être Ubuntu, cette éthique de l'interdépendance, je suis parce que tu es, et duquel décline tout un certain nombre de logiques qui font qu'on ne peut pas se vivre clivé, mais tout le destin est collectif, et par le collectif, on intègre aussi le reste du vivant, etc. Donc le système du monde prescrit aussi des architectures. Donc, ce sont des, quand c'est une éthique, on peut parler de cosmo-éthique. Quand c'est l'architecture, donc c'est une cosmo-architecture qui résume aussi le monde et où tout doit être présent. Donc si j'ai encore 2 minutes, je vais donc vous présenter un ou deux projets où donc de cette volonté de partir du système du monde et d'une éthique liée à un récit qui est posé comme indépassable et dont la fonction en réalité, et ça je ne l'ai pas dit, de la cosmogonie, que ce soit dans le cas du pangolin ou de l'Égypte, est d'articuler idéalement le social dans le biosphérique, puisque par ces grands récits fondateurs, on pose des règles indépassables qui font qu'il n'y a jamais de clivage entre ce que les hommes vont faire de leur société et ce qui est censé être l'ordre global dont ils ne sont qu'une manifestation. Et donc en architecture, j'ai fait un travail pour isoler dans les architectures africaines un certain nombre de principes qui sont les facettes du système du monde et qui, paradoxalement, donc, fonctionnent un peu comme un algorithme. Et la façon dont vous agencez ces principes donne des bâtiments différents. Et vous les agencez de façon différente par rapport au site, c'est le site qui prescrit, mais le vocabulaire, en tout cas les éléments du vocabulaire sont le même, et c'est comme une recomposition à chaque fois. Bon, je vais juste parler de quelques principes rapidement. Il y a les figures de gestation qui reviennent beaucoup dans l'architecture traditionnelle, qui sont censées, qu'on peut rapporter, et c'est un peu l'exercice que je fais aussi, à des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Gestation, vous pouvez la rapporter à la durabilité. C'est l'idée que on met en place un contrat intergénérationnel et que les actes que nous posons aujourd'hui ne doivent pas contraindre l'existence de ceux qui vont nous suivre. Il y a le principe de la fractale. C'est la répétition en cohérence ou le maintien de la totalité dans la partie à mesure des changements d'échelle que toute la cohérence se retrouve. Et donc que ce soit au niveau de l'objet fabriqué dans la culture matérielle, de l'architecture et du village, on doit avoir toujours cette même cohérence qui est totale, etc., etc. Donc il y a 8 principes que je recombine différemment pour avoir à chaque fois une architecture qui est une cosmo-architecture. Ces principes ont réellement l'air d'avoir un potentiel de computation, parce que elles se prêtent assez bien au génératif, elles sont complexes, elles peuvent servir la performance. Donc les principes peuvent aussi rapporter à des préoccupations très 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 de nos jours, la durabilité, l'égalité, l'équilibre, la responsabilité, etc., etc., etc. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de ce que nous avons comme grandes ambitions aujourd'hui pour régler les problèmes du monde avait déjà été modélisé de façon très subtile, très complexe dans les systèmes des pensées des sociétés dites primitives. Et dans la façon de ménager cette complexité, eux ont beaucoup regardé à la nature. Pour développer une approche des technologies qui soit apaisée, il s'agirait juste de voir comment, sur ces traces-là, on développerait aussi de la technologie. Cela suppose qu'on évince le processus d'innovation d'un certain nombre de choses qui le condamne à aboutir en fin de course à des devices et à des concepts problématiques que nous connaissons aujourd'hui, qui est que dans les écoles de design comme dans les labos d'innovation de la Silicon Valley, on fait de l'innovation pour le marché et on n'a pas d'autres outils de comptabilité autres que celui-là. Tant qu'on produira et que dans la tête du designer dès l'école, il sait qu'il aura une meilleure note quand ce qu'il livre au prof est supposé être acheté par un maximum de gens, on oblitère un peu le potentiel des nouvelles technologies, et ça c'est un peu ma conclusion, je ne vais pas tout présenter, C'est que de mon point de vue, en fait, la vraie course des technologies est courte, donc prend le chemin de l'âne pour revenir à la nature. Et c'est la Silicon Valley et cet esprit un peu de tout à la calculabilité au marché qui le dévie de cette course. Et si on comprend que les technologies d'aujourd'hui, en fait, sont très distribuées, en tout cas les dernières générations de technologies depuis. Même avant l'intelligence artificielle, mais même celles qui vont se présenter prochainement, la blockchain, l'informatique quantique, sont des technologies très distribuées, des technologies qui rebouclent de plus en plus avec la science et la nature, et la science perçue comme une extraction des choses observables. On comprend que, en réalité, le problème n'est pas la technologie prise comme magma ou source bouillonnante, parce que pris comme telle à l'état brut, elle match assez bien avec les réalités du distribué, de la démocratie, du partage, etc. C'est l'esprit très occidental de le mettre au service de la consommation qui en fait des chimères, les chimères que nous connaissons depuis. Merci.
Merci.